quand nous chanterons le temps des cerises et guet rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va d'eux, cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, aux roses pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main, par la plume ou le marteau gagne, en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille, les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème, qui sans souffrir rime rêveur. Un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sortons d'on ne sait pas où. Toujours avec esprit vous raille, se riant de votre mépris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons quand sonne sa vingtième année pour entrer dans nos bataillons. Cher à canon de la bataille, toujours il succombe sans cri, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Il fredonnait la Marseillaise, nos pères les vieux vagabonds, attaquant en 93 les bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille que de trembleurs ont dit depuis, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis. Les uns travaillent par la plume, le front dégarni de cheveux. Les autres martèlent l'enclume et se saoulent pour être heureux. Car la misère en sa tenaille fait saigner leurs flancs amaigris. C'est la canaille. Eh bien, j'en suis. Enfin, c'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots, mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous ses drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire aux ennemis, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et oui, je vais commencer tout de suite, c'est-à-dire dans pas longtemps, l'évocation des partageux de la commune. Alors bah oui, vous avez eu le temps des cerises, hein, voilà. Vous avez eu le temps des cerises et puis le deuxième, bah c'était la canaille, hein, la canaille. Tout ça, ça a été chanté pendant la commune, hein, en 1871, bien sûr. Alors bah oui, comme fil conducteur, évidemment, Louise Michel, hein, pour cette année. Évidemment, actualité oblige, entre guillemets. Et alors, la semaine dernière, on s'était arrêté à 1878 et cette révolte kanak. 1878, bah, cela fait 5 ans que Louise Michel, donc, est condamné, a été déporté. Et en principe, après 5 ans de déportation, tout condamné n'est plus astreint au régime de l'enceinte fortifiée, c'est-à-dire pratiquement être emprisonné. Mais comme, bon, en Nouvelle-Calédonie, disons, la... L'île déjà fait que bah c'est très dur de partir, hein. Et puis de toute façon les régions où ils étaient donc confinés faisaient que c'était très dur de s'en sortir aussi. Et donc à partir de janvier 1879, donc tout de suite à la fin de cette révolte kanak, quand elle a été écrasée donc par l'armée française, par les colons, hein, donc Louise Michel va circuler librement sur l'île. Mais Louise Michel devra attendre le 8 mai, officiellement, le 8 mai 1879 pour s'installer à Nouméa. Puisqu'il fallait prouver que l'on ait donc des moyens de subsistance suffisants. Et alors, évidemment, bah, ce qu'elle sait faire, c'est une école, hein. Donc, elle va monter une école. Et du reste, Clémenceau va lui envoyer bah, quelques subsides, hein, qui ne seront pas suffisants. Mais bon, d'autres vont s'y subvenir. Donc, elle peut officiellement venir vivre à Nouméa, puisqu'elle ne sera pas à la charge donc de, bah, de la... du ministère donc des colonies. Les rapports des militaires sont particulièrement défavorables à son sujet, donc pour cette commutation, hein. Voilà ce que l'on peut voir. Femme sans cœur, qui délaisse sa mère pour instaurer une société abominable. Et alors, de Paris, le commissaire du gouvernement va conclure le 27 juin 1878, donc en pleine révolte kanak, hein. Nous pensons qu'il n'y a pas lieu de commuer sa peine, d'autant qu'un recours en grâce n'accompagne cette demande de renseignement. Par contre, l'administration pénitentiaire qui est sur place préfère sûrement se débarrasser de cette prisonnière encombrante. Alors, elle est qualifiée de caractère exalté, elle a des mœurs passables, elle fait des travaux d'aiguille, de culture, des sciences littéraires et montre assez de soumission. Et puis il est précisé qu'elle traite de lâches ceux de ses codétenus qui ont adressé ou adressent des recours en grâce. Mais, conclusion donc de cette administration pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie, son expiation semble suffisante. Suffisante. Le 16 octobre, sa peine est remise. Mais ça, évidemment, ça se fait à Paris. Le 24 décembre, le ministère de la Guerre à Paris transmet au ministère des Colonies à Paris. Et donc, le ministère des Colonies va transmettre à l'administration pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie. Et cette note n'arrivera que le 23 janvier 1880. Donc, on voit entre le 16 octobre et le 23 janvier, il y a quand même quelques mois qui sont passés. Et alors, bah, 23 janvier 1880, ça nous rapproche donc de cette date du 11 juillet 1880 avec cette amnistie pleine et entière que Gambetta est contraint de faire voter, de faire accepter aux députés, mais en faisant un discours qui n'est même pas ambigu. Qui condamne totalement la commune, puisqu'il demande que cette loi d'amnistie, en fait, mettra donc une pierre tumulaire sur ce qui s'est passé, sur les crimes de la commune. Voilà. Et alors, bah, on se rend compte que les nouvelles vont pas vite. Hein. Mais enfin, si les nouvelles ne sont pas de toute première fraîcheur, hein, 2-3 mois quand même, encore que le continent, l'Europe... Europe, Australie, bon, ça va relativement vite, hein, puisque les bateaux passent pas le canal de Suez, hein, là, ce ne sont pas des bateaux de forçat où, disons, il y a risque d'évasion lors du passage du canal de Suez, c'est pour ça qu'ils faisaient le grand tour, hein, et donc, là, les bateaux de commerce ou de voyage, donc, passent par le canal de Suez, donc ça va plus vite. Ils arrivent donc en Australie, et d'Australie, Australie-Nouvelle-Calédonie, en principe, il y a un câble donc télégraphique qui est posé. Alors, ça va, les nouvelles, disons, arrivent. Mais les nouvelles de métropole, donc, arrivaient par les nouveaux déportés. C'est comme ça que les déportés savaient. Ils sont aussi apportés donc par les déportés qui travaillaient chez un colon, puisque le colon était quand même au courant de ce qui se passait déjà en Nouvelle-Calédonie, bien sûr, à Nouméa notamment, mais surtout aussi ce qui se passait en métropole, hein, voilà. Et puis il y a aussi donc le courrier, mais alors le courrier est rigoureusement censuré. Louise Michel va quand même réussir à envoyer aux journaux de Paris des récits, notamment sur les massacres des Kanaks. Et notamment, il y a une lettre qui est datée du 16 décembre 1878. Mais là, nous sommes donc après les 5 ans de déportation, hein, donc le contrôle, la censure est moins pointilleuse, hein, disons. Et puis, elle va aussi envoyer un recueil de vers, Les Océaniennes. Elle demande que ça soit édité au profit des victimes de la répression. Voilà. Eh bien, avant de se poser la question que se passe-t-il en France, hein, pendant que Louise Michel est en Nouvelle-Calédonie, eh bien, on va écouter Léo Ferré. Léo Ferré. Et alors, si je ne me suis pas trompé, ça doit être La Fortune. Voilà, Léo Ferré, La Fortune.
Les crayons que l'on vend à Paris écrivaient des chansons comme Monsieur Lully. Et si toutes les plumes avaient vers les nos becs, et chacun sa chacune, on ne vivrait plus qu'avec la fortune, quelques thunes, deux bouquets, trois chansons et la lune. Si tu rêves, ta vie brève passera comme passent les rêves. La fortune, quelques thunes, et de quoi s'en aller dans la lune. Si tout passe, si tout casse, si tout lasse, passe, passe. Si tous les vauriens qui ne valent rien à Paris ne valaient qu'un refrain de Villon ou de qui, et si toutes les épines avaient la rose avec et copain sa copine, on ne vivrait plus qu'avec la fortune, quelques thunes, de salut, trois au revoir et la lune. Si tu chantes, ta vie lente filera comme file une étoile filante. La fortune, quelques thunes, et de quoi faire briller cette lune. Cette lune où s'allume et consume l'infortune.
Eh bien oui, c'était donc Léo Ferré qui chantait La Fortune. Et alors, La Fortune, ça a donc été créé en 1955. Voilà, 1955, La Fortune. Eh bien, on va continuer, oui. Bah, que s'est-il passé en France ? On peut rappeler 1873, bah, Louise Michel est au courant, puisqu'elle est encore emprisonnée en France. Elle n'ignore pas qu'aux élections partielles législatives du 27 avril 1873, les Républicains vont remporter 6 sièges sur les 7 à pourvoir. Donc c'est le grignotage du courant monarchiste, aussi bien légitimiste qu'orléaniste, puisque pratiquement on peut estimer que ce qui est sorti des urnes en février 1871, donc ces élections qui ont été, disons, imposées par les Allemands pour avoir donc des interlocuteurs légitimes, légaux, pour signer donc ce traité de paix, le traité de Francfort. Donc, 8 février 1871, en gros, il y a 200 monarchistes légitimistes et 200 monarchistes orléanistes. Donc, sur 650, évidemment. Ça fait quand même beaucoup de monde, surtout qu'il y a encore des bonapartistes. Le restant, bien sûr, ce sont des républicains dits opportunistes. Voilà. Et alors, les républicains donc vont remporter 6 sièges sur les 7 à pourvoir. Et donc, Dauban va écrire « L'échec brillant de Monsieur Victor Hugo en 1872 ». Et oui, Victor Hugo s'était présenté. Le triomphe complet de M. Baraudet en 1873 sont les deux limites qui marquent l'étendue du terrain conquis par le parti sympathique à la Commune, ou plutôt les progrès de son audace. La Commune est en train de devenir une légende. Le peuple ne sait pas lire et la bourgeoisie n'a appris le plus souvent qu'une chose au collège, c'est à détester le travail. Voilà, 1873. Baraudet, radical, républicain radical, ça voulait dire encore quelque chose à l'époque, le mot radical, va ramasser 180 045 voix, donc plus de 180 000 voix. Rémusat, donc, qui est le candidat soutenu par Adolphe Thiers, que 135 000 voix, 135 028. Arthur Ranc, membre de la Commune, qui a démissionné le 6 avril 1871, donc de la Commune, est élu député. Mais là, ça plaît pas. Le général bonapartiste, l'admiral, va le dénoncer. La Chambre va lever l'immunité donc d'Arthur Rank qui vient d'être élu. Et le 13 octobre 1873, le troisième conseil de guerre va condamner Arthur Rank à mort par contumace. Arthur Rank, évidemment, est un gambettiste acharné. Mais là, Gambetta ne l'a pas beaucoup défendu sur ce coup-là. Hein. Peut-être quelques mots sur ce Paul de l'admiral. Je crois que sa sépulture se trouve au Père Lachaise, bon, à Paris. Donc, bonapartiste, bien sûr, hein, il commande la première division de la garde impériale en 1863. Il est sous-gouverneur de l'Algérie en 1865, avant d'être sénateur. Il va suivre les défaites de Bazaine, donc dans la guerre de 1870, et donc il est fait prisonnier à Metz. Il va être relâché par les Allemands pour combattre la Commune. Hein. Il est nommé gouverneur militaire de Paris en 1871, donc après l'écrasement de la Commune. Ça, c'est le 28 décembre. Et donc, ce 28 décembre, oui, il interdit par décret le commerce des souvenirs de la Commune. Et oui, l'exhibition, la mise en vente et le colportage de tout dessin, photographie ou emblème de nature à troubler la paix publique sont prohibés. Sont interdits notamment la mise en vente, l'exhibition et le colportage des portraits des individus poursuivis ou condamnés pour leur participation aux derniers faits insurrectionnels. Voilà, 28 décembre 1871. Cette interdiction ne sera levée qu'en 1914. Alors, il reste quand même entre 1871 et 1914, où en gros il est interdit de parler de la Commune, reste ce discours de Gambetta pour faire passer donc ce fameux décret d'amnistie du 11 juillet 1880. Petit rappel, Léon Gambetta, qui avait fait voter les députés pour soutenir la répression policière malgré l'autorisation de la première commémoration du 23 mai 1880 au mur des fédérés du Père Lachaise, donc fait volte-face. et soutient la proposition de loi d'amnistie à la Chambre. Et voilà un passage de son discours. « Il faut que vous fermiez le livre de ces 10 dernières années, que vous mettiez la pierre tumulaire de l'oubli sur tous les crimes et tous les vestiges de la Commune, et que vous disiez à tous qu'il n'y a qu'une France et qu'une République. » Voilà, Gambetta, 23 mai, donc 11 juillet 1880. On reste en 1873, le 17 mars, la Chambre, les députés, votent à l'unanimité un texte. « Monsieur le Président de la République a bien mérité de la patrie. » Bah oui, qui c'est qui est président de la République en mars 1873 ? C'est encore Adolphe Thiers, et oui. Tous sont d'accord pour célébrer l'anniversaire de la décision d'Adolphe Thiers de lancer ses troupes pour récupérer les canons de la garde nationale, les canons des fédérés. Mais ça ne va pas durer longtemps, puisque deux mois, 24 mai, toujours 1873, de Broglie, monarchiste orléaniste, accule Thiers à la démission. Et là, MacMahon, monarchiste légitimiste, est élu par 390 voix sur 721. La gauche s'étant abstenue. Et donc ce MacMahon, présenté comme deuxième président de la Troisième République, pour moi, c'est le troisième, puisque le premier, c'est Jules Trochu. Mais alors celui-là, il est vraiment pas présentable, à tel point que là, bah, on a mis la pierre tumulaire de l'oubli sur Jules Trochu. Hein, parce que bon, le premier, ça a été Jules Trochu, après c'est Adolphe Thiers, après MacMahon, bon, Jules Grévy, puis tout ce qui s'est suivi derrière. Jules Grévy, avec des affaires de Légion d'honneur, hein, avec un certain genre qui devait s'appeler Wilson, quelque chose comme ça. Donc ce MacMahon s'engage à rétablir l'ordre moral. Et le 24 juillet 1873, vote de la loi déclarant d'utilité publique l'érection d'un sanctuaire à Montmartre, reprenant le vœu d'Alexandre le Gentil, vœu qui date de l'automne 1870 pour la libération de la France. Donc là, il y a encore eu un tour de passe-passe. Hein. Mais bon, évidemment, quand on voit les textes qui ont été, les discours qui ont été faits, les célébrations qui ont été faites donc à cette basilique du Sacré-Cœur, on oublie que c'était pour libérer la France des Prussiens, puisque en gros, c'est quand même pour libérer la France des révolutionnaires. Hein. Voilà, c'est pour remercier donc la divinité d'avoir libéré la France des révolutionnaires. Mais les assomptionnistes, hein, donc ce courant chrétien catholique, hein, assomptionniste, eux vont créer le pèlerinage le national. Oui, là on voit un vœu national, hein, voilà. Mais le pèlerinage le national, c'est à Lourdes. Et là, c'est pour expier les crimes de la Commune. Et il existe toujours ce pèlerinage le national. C'est le 15 août. Oui, c'est le 15 août. Ouais. Et alors, le 10 décembre, toujours 1873, Bazaine est condamné à mort. Sa peine va être commuée en détention à l'île Sainte-Marguerite, d'où il va s'évader avec énormément de complicité. Le 9 août 1874, son avocat, qui s'appelle Lachaud, transmet ses remerciements à Adolphe Thiers pour sa haute impartialité à son égard. Et le 10 décembre 1873, eh bien oui, le bateau La Virginie, qui a à son bord des déportés, donc notamment Louise Michel, Nathalie Lemel, Rochefort, eh bien arrive en rade donc de Nouméa. Voilà. Eh bien, on va continuer avec Léo Ferré. Voilà. On va, ben, on va écouter, puis on saura ce que c'est après. Hein.
Les copains de la Neuil, les frangins de la Night, ceux qui ont le portefeuille, plus ou moins all right, ceux pour qui la mouise, ça fleurit que le jour, qu'on le rouquin en guise de frissons d'amour. Les copains de Cocagne, ceux qui ont des fafios, et qui font des magnes à la veuve Cliquot, ceux qui comptent les heures sur leurs pattes en velours, et qu'ont une demeure pour y planquer le jour. « Les copains de la farce qu'on m'aime pas de buffet, pour y foutre une garce ou pour y danser. Ceux qui poussent la lourde des minuits passées et qui n'ont comme gourde que celle du taulier. Les copains de la frime, ceux qui vendent le vent à des prix minimes quand il y a du client. Ceux qu'on la vie brève comme la fleur des champs et qui vivent en rêve pour gagner du temps. Les copains de la dure, ceux qui vivent pas cher mais qu'ont de la verdure même en plein hiver. Ceux qui prennent la lune pour du Beaujolais mais qu'ont le clair de lune en dessous du gosier. Et les copains de la bise à l'âme gercée et qui se foutent en prise avec deux gorgées. Ceux qui comptent les heures sur les doigts de la main et qui se font leur beurre avec leur chagrin. Les copains du soir et les frangins de la nuit, ceux qui bossent au noir jusqu'au bout de leur vie. Ceux qu'on la vie louche comme un beau matin et qui se cousent la bouche en causant des mains. Et les copains de la neuille et les frangins de la nuit, aux matins des feuilles de tous leurs habits. Le petit jour canaille les prend par le cou et puis les empaille comme des
toujours avec bien sûr. Et là donc c'était les copains de Neuilly, et donc ça a été créé en 1958, voilà. Léo Ferré. Et bien donc on continue, on arrive en 1874 hein, pour Louise Michel. Évidemment les infos vont être plus dures à arriver, là elles vont mettre beaucoup plus de temps, puis elles vont être filtrées bien sûr hein. 19 mai 1874, loi réduisant la durée du travail des femmes et des enfants. Et oui, ça c'est quand même les idées de la commune là, qui commencent à devenir inéluctables, y compris par le pouvoir, y compris par les employeurs. Et puis c'est aussi l'interdiction du travail des femmes au fond des mines. Il y a la création de l'inspection du travail. Et puis l'amélioration aussi de la loi de 1841. Interdiction du travail des enfants avant 12 ans. La fille mineure est assimilée à l'enfant mâle de 16 ans. Des dérogations autorisent l'entrée dans le monde du travail dès 10 ans, mais avec une limitation à 6 heures par jour. La loi ne s'applique pas aux ateliers de famille et aux établissements de bienfaisance. Ce qui veut dire que les religieux pourront toujours exploiter gratuitement ou à vil prix donc les enfants, puisqu'on en est là. La durée maximum de la journée de travail est de 12 heures à partir de 12 ans. Le travail de nuit est interdit jusqu'à 16 ans pour les garçons et jusqu'à 21 ans pour les filles. Et puis il y a l'obligation du repos hebdomadaire, 1874. 26 juin, le tribunal de la Seine juge Courbet coupable d'abus d'autorité. Et oui, on lui colle, c'est MacMahon qui y a collé donc la responsabilité du déboulonnage, le mot est de Courbet, déboulonnage de la colonne Vendôme, et devra payer seul la totalité du coût de la reconstruction. Lachaud, son avocat, tiens, c'est curieux, va faire appel, malgré que Courbet soit réticent, sans doute en raison des nouveaux honoraires de cet avocat, Lachaud, qui était qualifié d'un des ténors du barreau, mais ténor, ça veut dire le plus cher, hein. En gros, c'est à peu près ça, c'est dans ce sens-là qu'on peut l'entendre, hein. Ça s'appelait un bavard à une certaine époque, donc plus il bave, plus il coûte cher. Et alors, l'appel est prévu pour le 2 août 1875, mais sera reporté au 6 août. Le jugement est confirmé. Londres, en juin 1874, le groupe La Commune Révolutionnaire publie un manifeste. Et alors, je l'ai en entier, c'est Louise Michel qui le retranscrit dans son ouvrage La Commune, hein. Donc c'est pas dans ses mémoires, hein. Mémoire publié en 1886, La Commune, donc qui recoupe, hein, mais enfin bon, avec des aspects un peu différents, mais surtout avec quelques années de passé, hein, puisque La Commune est publiée en 1898, hein. Donc ça fait quand même 12 ans d'écart. Pour Louise Michel, 12 ans, il y a beaucoup d'eau qui est passée sous le pont, hein. Aussi bien sous le pont du bateau que sous le pont, sous les ponts de Paris, hein, notamment. Même les ponts d'Algérie, puisque elle ira faire des conférences donc en Algérie. Et alors, quelques passages, hein. Nous sommes athées. Parce que l'homme ne sera jamais libre tant qu'il n'aura pas chassé Dieu de son intelligence et de sa raison. Nous sommes communistes, parce que nous voulons que les richesses naturelles et les instruments de production appartiennent à la communauté. Nous sommes révolutionnaires, parce que nous voulons le renversement par la force d'une société qui ne se maintient que par la force, parce que nous voulons conquérir le pouvoir politique par la dictature du prolétariat. Alors, évidemment, bah oui, on est à Londres, hein, dictature du prolétariat. Il y a eu quand même quelques écueils depuis, parce qu'il y en a qui s'en sont servis pour établir leur dictature tout court, hein. Voilà. Mais il y en a, oui, il y en a quand même 3 pages autour de ce manifeste, hein. Donc, Londres, juin 1874. Et Louise Michel est tout à fait, disons, en accord, puisque dans son ouvrage, hein, La Commune, hein, donc elle le reprend intégralement. Voilà. 5 juin 1875, inauguration de l'Opéra Garnier. Alors, on peut quand même rappeler que les courettes avaient servi pour fusiller des fédérés lors de la Semaine sanglante. Hein. 7 janvier. Dans le but de renforcer son septennat, MacMahon demande à l'Assemblée d'adjoindre une deuxième chambre, élue au suffrage restreint. Les légitimistes, bloqués sur une restauration intégrale, refusent tout et se joignent aux républicains pour repousser la demande. Cissé, donc encore un qui a fait la répression de la Commune, donc bonapartiste, Premier ministre, est contraint à la démission. Et là, Gambetta va continuer à manœuvrer très habilement pour faire voter les lois constitutionnelles. 30 janvier 1875, c'est l'amendement Wallon, voté à une voix de majorité. Il est 18h45, ce 30 janvier 1875. 353 voix pour, 352 contre. Et donc, c'est ce qui permet l'instauration de la Troisième République. Et voilà donc, disons, une phrase qui est votée, entre autres. Hein. Le président de la République est élu à la majorité des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour 7 ans. Il est rééligible. Et cet amendement va devenir l'article 2 de la loi du 25 février, donc 1875. Et là, en fait, c'est l'instauration de cette Troisième République, puisque, bon, jusque-là, on était, non, mais j'ai eu la République en charge, donc je la garde, hein. C'est Adolphe Thiers qui dit ça. MacMahon dit, je garde la République en attendant de, comme régence, en attendant de repasser, donc, le trône au duc de Chambord. Donc, là, ça y est, c'est fini. Officiellement, c'est l'instauration de la République. Donc, c'est pas le 4 septembre 1870, hein. C'est plutôt ce 30 janvier 1875, hein. Et alors, il y a eu, certains expliquent, hein, c'est le monarchiste Chabroux qui avait dit qu'il s'abstiendrait à voter, mais quand il apprend qu'un pointage des voix va être nécessaire, il va voter pour l'amendement. Et pour le remercier, les républicains, entre guillemets, vont l'intégrer dans la liste des sénateurs inamovibles. Et il est élu donc 43e sénateur. Voilà. Pour avoir l'appui des élus monarchistes en 1871, il y aurait donc 652 monarchistes sur 736 élus. Thiers, par l'entremise de Trubert, avait suggéré au duc d'Aumale de laisser la responsabilité de la négociation. Donc, duc d'Aumale, c'est un des fils donc, de Louis-Philippe, hein, c'est les monarchistes orléanistes, ça. Et voilà ce qui leur est tractation, encore des sous, hein. Et les biens de votre famille. C'est bien que le décret inique du 22 janvier vous a ravi et qui doivent vous être restitués. Maintenant que la France a repris possession d'elle-même, pourrez-vous les réclamer, comme c'est votre devoir et votre droit, si vous êtes chef d'État. Et alors, Maxime Ducamp rapporte les propos donc de Picard en date du 21 décembre 1872. Nous allons donner aux Orléans un argent qu'on ne leur doit pas afin de nous en débarrasser pour toujours. Et alors donc après ce vote, Thiers exultait. Je les ai cousus dans un sac d'écu, ils n'en sortiront pas. Donc on voit cette République, les fondements de cette Troisième République, ce sont d'odieuses tractations, et c'est encore ce qui se passe à l'heure actuelle, hein, par l'entremise du financement des partis politiques, avec toutes les menteries qu'il peut y avoir autour, et surtout ce que certains appellent de l'argent sale. Mais c'est très curieux, puisque argent sale, pour moi, c'est un pléonasme, hein, ce n'est pas vraiment autre chose, hein. Et alors, voilà ce que déclare la maréchale de MacMahon, qui est duchesse de Magenta. Eh oui, MacMahon, duc de Magenta. Eh bien, nous l'avons donc, cette gueuse de République. Eh oui, là, ça y est, les monarchistes, plus particulièrement légitimistes, sont obligés de se rendre compte que ça y est, la République, c'est un fait acquis. Alors, bon, une voix de majorité, il y en a qui rappellent que la Convention avait envoyé Louis XVI à l'échafaud, avec une voix de majorité, et oui, une voix d'un monarchiste orléaniste, hein, évidemment. Le 16 juin 1875, on revient donc à cette basilique de Montmartre, hein, le cardinal Guibert, archevêque de Paris, pose la première pierre de la basilique de Montmartre. Et alors dans cette pierre, il est placé un médaillon en bronze de Chaput, représentant la France à genoux, et des monnaies françaises et pontificales. Et puis il y a aussi le procès-verbal donc de la cérémonie. 16 juillet 1875, vote des lois constitutionnelles qui doivent prendre effet donc le 30 décembre 1875. Donc autant dire le 1er janvier 1876. Hein. Le 20 décembre, toujours 1875, Alfred Naquet dépose son projet d'amnistie pleine et entière et dénonce devant l'Assemblée très hostile les horreurs qui se commettaient à Nouméa. Une question préalable est réclamée par Landlois, qui siège à gauche, qui argue des empiétements de l'Assemblée sur les droits de la magistrature et partant la confusion des pouvoirs. La proposition de Naquet est donc remise sine die. Et donc on se rend compte que là, c'est donc ce Landlois, républicain. En principe, siégeait à gauche, hein, républicain bien opportuniste, qui en fait botte en touche pour faire remettre ce projet donc d'amnistie. Le 22 décembre, donc Naquet dépose une demande d'interpellation, mais l'Assemblée décide de la renvoyer à 6 mois. Le débat sur les conditions de la déportation et de la transportation en Nouvelle-Calédonie n'aura donc pas lieu. Francis de Pressensé réaffirmait sa demande d'amnistie partielle, d'où devaient être exclus les responsables de l'insurrection et les condamnés de droit commun. Et voilà ce que dit donc ce Francis de Pressensé. Il n'est pas possible de soutenir une proposition d'amnistie qui présente ce caractère d'une généralité dangereuse et, j'oserais dire, presque factieuse. Je ne puis admettre un instant qu'une grande assemblée qui doit défendre la loi, l'ordre républicain, conformément à la loi, puisse accorder indistinctement l'indulgence à tous ceux qui se sont soulevés contre les bases fondamentales de la société. Et ça, c'est pris dans le journal officiel du 22 décembre 1875. On arrive en 1876, 20 février, 5 mars, élections législatives qui vont donner une forte majorité de députés républicains. Oui, mais lesquels, hein? on a 360 républicains contre 170 conservateurs. Thiers est réélu député du 9e arrondissement à Paris. Buffet est 4 fois battu. Et alors, c'est ce royaliste Buffet qui, le 23 mai 1873, avait empêché donc Adolphe Thiers de se défendre et avait causé sa démission, puisque très habilement, ils avaient fait passer quelque temps auparavant une loi réglementant donc la prise de parole donc du président de la République, en précisant qu'il ne pouvait pas donc prendre la parole, il devait attendre 24 heures pour pouvoir répondre. Et là donc, ce 23 mai, Adolphe Thiers se fait donc honorablement attaquer, mais il ne peut pas répondre, il ne pourra répondre que le lendemain. Donc tout est joué, puisque le vote se fait le soir. Voilà, on en est là. Le 1er juillet, Bakounine décède à Berne. Sa veuve va confier ses manuscrits à un comité chargé de les publier. Dans ce comité, il y a Élisée Reclus, Saverio Ficcia, Emilio Balerio et Arthur Arnoux. Et le comité va confier tous les documents en 1877 à James Guillaume, qui, avec Max Netlow, va en publier une partie dans 6 volumes, et donc ça s'appelle Les œuvres de Bakounine. Ça paraîtra chez Stock de 1895 à 1913. Alors, c'est l'ouvrage La Commune, donc de Louise Michel, a été publié chez Stock en 1896. Donc, on se rend compte que l'éditeur Stock éditait des livres très très intéressants. Et alors, nous sommes toujours en 1876, l'AIT, l'Association Internationale des Travailleurs, donc la première, est formellement dissoute par son Conseil Général, qui se tient à Philadelphie, donc aux États-Unis d'Amérique, sur ordre de Karl Marx. Il est évident que seuls ont pu faire le voyage les marxistes. Les autres, ils étaient soit en Nouvelle-Calédonie, soit en déportation. Donc, c'est comme ça que Marx s'est débrouillé pour enterrer la première internationale, donc en faisant tenir le Conseil Général à Philadelphie. Le 16 juillet, Bulletin de la Fédération jurassienne. Il publie le vœu émis aux obsèques de Bakounine. Voilà ce que l'on peut lire. L'Assemblée réunie à Berne propose à tous les travailleurs d'oublier de vaines et fâcheuses discussions passées et de s'unir plus étroitement sur la base de la reconnaissance des principes énoncés à l'article 3 des statuts de l'International révisé au Congrès de Genève de 1873, assurant aux fédérations une parfaite autonomie. Et le 2 décembre, tiens, c'est une date encore ça pour les bonapartistes, le Sénat fait chuter le troisième cabinet d'Armand Dufort sur la question de l'amnistie. Eh oui, ça va, c'est un boulet au pied. C'est pour ça que Gambetta parle de mettre une pierre tumulaire sur les crimes de la Commune, puisque en fait, pratiquement pendant 9 années là, en métropole, des politiciens vont chuter, donc vont être très ennuyés avec cette affaire d'amnistie, puisque ils risquent leur poste, ils risquent leur mandat aux élections, mais s'ils appuient l'amnistie, ils vont pas être soutenus financièrement donc par leurs employeurs, en gros, on peut le voir comme ça. Eh bien, on va continuer donc avec Léo Ferré.
La clarinette qui était gonflée a dit les potes, ça va jaser. C'est ok. Le saxo qui comptait les points a mis le chorus au bout de sa main. Le piano qui était pas Chopin se donnait pourtant un mal de chien. Mais de chien. On n'est pas là pour rigoler, la bande à jazz a débarqué. Jazz band, band à Duke Ellington, ton, 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 ton. Jazz band, band à Louis Armstrong, strong, 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 strong. Jazz band à Stan Kenton, ten, 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 ten. Jazz band. Jazz band, jazz, and so on, 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 on.
Le violon qui jouait taillis se faisait passer pour le bassiste.
J'aurais si t'aurais venu, je m'aurais pas allé.
Le bas, son sacré nom de nom était pas dans la partition.
Il lisait le journal. Le hautbois qui se faisait tout mince, il dit les potes, il y a du suspense, 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 suspense.
On n'est pas là pour rigoler, la bande à jazz est dans le cabaretier. Jazz Dan, Ben à Duke Ellington, ton, 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 ton. Jazz Band, Pantaloïs, Armstrong, Strong, 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 Strong. Jazz Band à Stan Kenton, ton, 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 ton. Jazz Band, Jazz and Soul, on, 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 on. La mélodie s'est dégonflée. On l'a retrouvé, on s'est barré. Les drums sont tout foutus en l'air, paraît que ça coûtera un peu cher. Ou plus cher. La guitare s'est arrangée pour planquer Bach à la pitié, pitié, pitié pour un pauvre musicien. Y a pas eu moyen d'y couper, la bande à jazz tenait le quartier. Jazz band, et moi pour l'écouter, et jazz band, et toi pour y danser, jazz band, bada Duke Ellington, ton 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 ton. Une java qu'avait mal tourné, nous foxtrotter en javanais. Un vieux tango sous un faux nom, nous soldait du boogie bidon, bidon, avec Braton et tout. On allait peut-être pouvoir s'aimer, la bande à jazz quittait le quartier.
Je t'aime, même si c'est sur trois temps. Je t'aime, ici ou dans le vent. Je t'aime, en jazz ou à nos gens. Je t'aime, l'accordéon haletant.
Toujours avec Léo Ferré, et là bien sûr c'était donc le Jazz Band, hein, c'est ça, le Jazz Band 1958, voilà, le Jazz Band. Eh bien nous on est en 1877, et comme on est dans les chants, là où les chansons, donc création du drapeau rouge, c'est chanté à Saint-Imier. Eh oui, Fédération Jurassienne. Il y a aussi cette parution d'un bouquin, là, le Tour de France de deux enfants. Évidemment, c'est G. Bruno qui l'a écrit, mais bien sûr, c'est un pseudonyme. Hein. En fait, c'est Alfred Fouillet qui va présenter le manuscrit à l'éditeur Eugène Belin comme étant l'œuvre d'un auteur qui veut garder l'anonymat. Ah oui, oui, mais le problème, enfin, ou s'il n'y en a pas, peut-être, c'est que l'auteur, bah, c'est son épouse, hein, née Augustine Tuellerie, mère par un premier mariage du philosophe Jean-Marie Guyot. Voilà. Donc, G. Bruno, en fait, c'est Augustine Tuilerie. Voilà. Février 1877, parution de L'Assommoir d'Émile Zola. Donc, on voit, c'est à peu près, ça va à peu près ensemble. Hein. Le 5 avril, Cafiero, Malatesta et Ceccarelli, à la tête d'une trentaine de socialistes, brûlent les archives communales de petits villages de la province du Bénévent. Ils obligent le curé à faire un discours révolutionnaire, redistribuent l'argent pris à la perception. La révolte va tenir donc jusqu'au 11 avril. 4 mai, vendredi, Gambetta, signataire du programme de Belleville en 1869, il a été élu là-dessus, se déclare en 1877 partisan du système qui rattache l'Église à l'État pour la protection de notre indépendance ecclésiastique. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Donc ça s'appelle du gallicanisme, hein, c'est-à-dire, bah, on arrive à cette loi de 1905, hein, on paye donc la hiérarchie catholique pour qu'elle foute la paix donc au gouvernement français. En gros, c'est à peu près ça. 17 mai, Léon Gambetta écrit à Léonie Léon. T'as fait beaucoup de Léon, ça, hein. C'est les pans qui crisent Léon. Et alors donc, il a bien bataillé à la chambre hein, sur cette affaire-là. Voilà ce qu'il dit. J'ai livré bataille et je crois bien l'avoir gagné. Comme tu le verras dans le journal, la question est maintenant posée. Ou un gouvernement républicain ou la dissolution. Je t'attends demain chez moi vers 6h. Il faut que je t'embrasse. Ça s'arrête là, mais on pourra rajouter, et peut-être plus si affinité, mais il y avait affinité. Hein. 18 mai, le Conseil d'État rejette la demande de la Banque de France de rembourser l'avance faite à la commune sur le crédit de la ville de Paris. Du 20 mars au 23 mai, la Banque de France avait payé à la commune révolutionnaire la somme de 19 685 200 francs. Sur ce total, 9 401 819 francs formaient le compte courant de la ville de Paris et 7 293 383 francs provenaient des fonds appartenant à la banque. Donc on voit, c'est très précis. Hein. Considérant que, pendant l'insurrection, le ministre s'est borné par lettre en date du 30 mars 26 et 30 avril 1871 à insister pour que les membres du Conseil général de banque de la Banque de France à les engager à persévérer jusqu'à la fin dans la voie qu'ils avaient adoptée, que le ministre des Finances, par lettre adressée au gouverneur de la banque à la date du 10 et 15 août 1871, a fait connaître que le gouvernement reconnaissait qu'il devait rembourser à la banque les sommes dont il ne serait tenu aucun compte par la ville. Voilà. Donc on se rend compte que, en fait, la Banque de France va s'asseoir sur le trop-perçu qu'elle a versé à la commune, mais pas vraiment, puisque de toute façon, la Banque de France faisait office de trésorier payeur, c'est-à-dire que les taxes, les impôts lui étaient versés. C'est elle qui les engrangeait, disons, et qui les redonnait à la demande donc des services administratifs. Hein. Donc il semblerait pas que la banque ait perdu, la Banque de France, banque privée. Et perdu beaucoup d'argent là-dedans. 9 juin, Costa a fait à Genève une conférence sur la propagande par le fait suite à l'affaire de Bénévent. Et oui, obliger le curé à faire un discours révolutionnaire et puis prendre la perception et redistribuer l'argent de la perception. Donc on voit, il y a la Banque de France là, mais il y a aussi le percepteur. Et c'est ça, la propagande par le fait. Il n'est pas question donc d'agression physique. Hein. Le point de départ, il est là. Donc ces petits villages donc de la province de Bénévent, et puis cette confirmation donc faite par Costa à Genève. Hein. 16 juin 1877, Fourtou, qui est nouveau ministre de l'Intérieur, va faire l'éloge du ministère de Breuil à la Chambre. Et alors, voilà ce qu'il dit. Les ministres ont fait partie de cette Assemblée nationale dont on peut dire qu'elle a été la pacificatrice du pays et la libératrice du territoire. Un député républicain se lève, républicain comme par hasard, et désignant Adolphe Thiers qui se trouve sur la travée de la gauche. Adolphe Thiers à gauche, on aura tout vu. Voilà ce qui est donc qui se lève et il dit « Le libérateur du territoire, le voici !» Toute la gauche se lève, les deux tiers des députés de l'Assemblée aussi, et ils applaudissent Adolphe Thiers qui commence à pleurer tout doucement. Voilà, voilà comment, pratiquement, on peut le penser, se termine cette affaire donc de la commune, hein, avec une grosse histoire dessous, et puis Adolphe Thiers là qui chiole tranquillement dans son coin. 25 juin, dissolution de la Chambre. Gambetta déclare « Nous partons 363, nous reviendrons 400 ». En fait, ils ne reviendront que 326. Ouais. 3 septembre, lundi, Adolphe Thiers meurt quand même. Voilà. Alors, certains disent que, il meurt pas, il crève. Hein. Je connais qui disait ça. Enfin, ouais. 8 septembre, samedi, enterrement provisoire d'Adolphe Thiers au Père Lachaise, dans le caveau Martineau-Charlemagne. Et oui, il est pas, disons, dans l'espèce de truc là qui a été monté là, à côté de la chapelle, qui est même plus grand que la chapelle, par souscription publique, ce qui fait qu'à partir du moment où c'est une souscription publique, les vagues descendants de la mémoire d'Adolphe Thiers considèrent que c'est un monument public parce qu'il a été érigé par souscription publique, donc il appartient à l'État de le restaurer ou de l'entretenir. Hein, ça s'est vu tout à fait encore récemment. Voilà. 9 octobre au cirque du Château d'Eau. Eh oui, ça a été le cirque impérial, ça a été le cirque, et puis maintenant c'est le cirque d'hiver. Gambetta défend le suffrage universel, et voilà ce qu'il dit. Cette institution fondamentale de la liberté démocratique. Suffrage universel, mais réservé qu'aux hommes. 28 octobre, victoire des Républicains aux législatives. 326 sièges sur les 543. Enfin, Gambetta avait dit qu'il reviendrait 400, donc quand même, il en manque 74. Hein. Légère remontée des monarchistes, 208 au lieu des 153 en 1876. En fait, ce sont les bonapartistes qui sont les grands perdants. MacMahon doit reconnaître les limites du pouvoir du président et accepter un gouvernement de centre-gauche dirigé par Jules Dufort, dans lequel un radical, qui s'appelle Freycinet, va obtenir les travaux publics. Freycinet. 18 novembre, Jules Guesde crée l'Égalité, c'est un hebdomadaire marxiste, qui marque le départ du Parti ouvrier français, le POF, le POF. Après le congrès de Marseille, donc d'octobre 1879, il est considéré comme journal socialiste. Il sera suspendu le 14 juillet 1878. Juillet. Et puis le 18 novembre 1877, sous la présidence d'un pasteur protestant qui s'appelle Frédéric Desmond, le Grand Orient de France retire de ses constitutions l'obligation de la reconnaissance du grand architecte de l'univers. Alors évidemment, c'est un pasteur protestant qui fait ça, c'est assez curieux. Et là, j'ai, disons, en entrefilet, j'ai appris que le Grand Orient de France n'interdisait plus, c'est une fédération de loges, n'interdisait plus donc aux loges qui le constituaient d'initier donc des femmes, ce qui jusqu'ici valait quand même la suspension de la loge quand c'était fait. 19 novembre 1877, démission du cabinet Albert de Broglie. 23 novembre, cabinet Gaétan de Rochebouette. Et oui, la chambre refuse de siéger. Le cabinet tombe le lendemain. Et oui. 26 novembre, vente désastreuse des tableaux de Courbet. C'est l'équivalent de 50 000 francs d'aujourd'hui. Le portrait de Proudhon et de sa famille ne fait que 1500 francs. Le même fera 6150 francs à la vente de Brousse en 1900. Et pourtant, on voit que la cote ne monte pas. Et alors, bah oui, le portrait de Proudhon et de sa famille, il manque Eulalie Piéjard, hein, donc épouse Proudhon, hein. Et oui, il y a bien la chaise sur laquelle elle était assise, hein, puisque sur des esquisses, elle apparaît. Hein. Ça sera intéressant, je crois, à l'heure actuelle, de passer le tableau donc à la radiographie pour voir si c'est une, si elle est sur le tableau et si elle a été reprise après. Enfin, toujours est-il que la chaise sur laquelle devait être assise Madame Proudhon, dessus, il est posé donc une corbeille à ouvrage. Voilà, ça en dit beaucoup. Donc, c'était des paysans, hein, Courbet et Proudhon. Hein, et oui, ils étaient tous les deux donc de Franche-Comté, hein, Besançon. Voilà, mais ils s'entendaient d'assez loin, hein. C'était quand même deux pointures assez particulières, et je crois que Courbet, dans sa finesse, a bien représenté donc Proudhon, et ce tableau, pratiquement personne ne fait le, disons, ce rapport, hein, le portrait de Proudhon et de sa famille. En fait, il y a bien Pierre-Joseph Proudhon assis sur des marches, hein, dans le style du penseur de Rodin, là. Puis il y a ses deux filles qui jouent, hein, voilà. Mais il y a la corbeille à ouvrage, donc ouvrage ménager, hein, bien sûr, hein, travaux d'aiguille, comme on dirait, qui symbolise donc Madame Proudhon. Décembre, début de l'épuration. Et oui, là, il y a quand même un changement de régime. Hein. 85 préfets. 358 sous-préfets et directeurs nommés au lendemain du 13 mai sont révoqués. 13 décembre, cabinet Armand Dufort, centre-gauche, jusqu'au 30 janvier 1879, ça dure pas longtemps. 15 décembre, message de soumission de MacMahon. Et oui, MacMahon est obligé de reconnaître qu'il n'a plus le pouvoir personnel. Et alors, 31 décembre, mort de Gustave Courbet à la tour de Pels, c'est en Suisse. La première échéance des frais de reconstruction de la colonne Vendôme tombait le 1er janvier 1878, donc le lendemain. Eh bien, On va écouter donc Léo Ferré. Et alors là, on vient de me dire que Martha Lamulle, eh bien, il fallait l'écouter avec beaucoup, beaucoup d'attention. Voilà, eh bien, on essaye Martha Lamulle. C'est parti.
Où t'en vas-tu, Martha? Je vais qu'à un cas tout en haut des Pyrénées. Et que fais-tu, Martha? Je vais porter mon bas tout en haut des Pyrénées. Je vais en portant sur mon dos, tout là-haut, les marchandises au bon Dieu. Car il est toujours très fauché, tout là-haut, le petit bonhomme en bleu. Reviendras-tu, Martha? Monsieur, je ne sais pas, j'aime bien les Pyrénées. Où t'en vas-tu, Martha? Je vais qu'à un cas, tout en haut des Pyrénées. Que chantes-tu, Martha? Monsieur, n'importe quoi, puisque j'ai les Pyrénées. Si tu veux venir à Paris, ô Martha, je t'emmènerai avec moi. Je veux bien passer par Paris, mon ami, il paraît que c'est joli. Viens avec moi, Martha, et Paris tu verras, ça ressemble aux Pyrénées. Un jour l'on vit Martha descendre à petits pas dans la rue des Pyrénées. Où t'en vas-tu, Martha? Monsieur, je ne sais pas, où sont donc mes Pyrénées? Tu as voulu venir à Paris, ô Martha, il fallait rester là-bas. Monsieur, vous m'aviez bien promis, tout là-bas, de me ramener chez moi. À Vaugirard, Martha, ce soir tu t'en iras, bien loin de tes Pyrénées. La prochaine fois, Martha, tu réfléchiras mieux au petit bonhomme en bleu.
Chanson inconnue de Léo Ferré sur Radio Libertaire, Martha Lamulle. Et comme je disais à Jean-Jacques hors antenne, on croit à une chanson de patronage comme ça. C'est une des chansons peut-être les plus cruelles de Léo Ferré. Bien sûr, on regarde Martha qui descend la rue des Pyrénées, on sait pourquoi. Et il y a le mot Vaugirard à la fin. Alors pour ceux qui savent pas, pour les nouvelles générations, j'en sais rien, c'est quand même les abattoirs. Hein. Et on retrouve ça dans une chanson très secrète de Ferré. Jean-Jacques, je t'engage à la trouver. Elle est difficilement trouvable. Ce sont les chéris. C'est-à-dire que Ferré est hanté par les chevaux ou par les mules ou par les animaux qui vont à Vaugirard aux abattoirs. Tu chercheras pour moi ?
Oui. Hein ? Et alors, ces abattoirs de Vaugirard, à l'heure actuelle, c'est le marché aux livres Georges Brassens.
Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est encore d'actualité par rapport aux jeunes générations. Non ? Il y a encore aujourd'hui, non ?
C'est en train de disparaître, hein, de toute façon, hein, puisque c'est recouvert donc avec ce marché aux livres. Hein, donc, on n'a plus donc cette. C'est pareil pour la Villette. Hein, de l'ouvrier est venu mettre les abattoirs, voilà. Les abattoirs de la culture à la place des abattoirs, hein, tout simplement. Hein.
Tout ce que je sais, c'est que sous Napoléon, Paris comportait 8 abattoirs.
Ah oui. Ah oui, oui. Et les restaurants coopératifs, donc au moment de la Commune, ou tout au moins montés aussi bien par Eugène Varlin que par Nathalie Lemel, donc ces restaurants coopératifs étaient toujours à côté donc des abattoirs. Notamment, il y avait un abattoir au veau et un abattoir au volaille. L'abattoir au volaille devait se trouver dans une rue qui, à l'heure actuelle, est recouverte par la Samaritaine.
Voilà. On va faire une émission ensemble sur les abattoirs, un de ces jours, Jean-Jacques, non? Et sur les restaurants coopératifs, c'est très intéressant, tu sais. Je vais te laisser la parole, hein, reprendre ton émission. On attend de choc avec impatience. On y traitera d'un livre de 1963, Les Nuits Secrètes de Paris, par Guy Breton. C'est intéressant surtout au niveau sociologique, hein. Tu reprends le micro?
Ouais, Les Nuits Secrètes de Paris. Les Nuits Secrètes de Paris. Eh ben alors, c'est tout un programme. Oui, oui. Ah oui, oui, c'est voilà. Eh bien, donc
Oui, c'était Martha la mule. Hein. Martha la mule, et alors, si j'arrive à trouver, 1953.
C'est ça.
Créé en 1953.
Tu me recherches les chéries sur le même sujet un jour. Hein?
Oui, bah, voilà. Y a qu'à aller sur Internet. Hein, ça doit se trouver assez facilement. Voilà. Eh bien, donc, on reprend 1878, le 6 janvier, article de Jean Larue dans Le Réveil, donc sur Courbet. C'est une nécrologie, entre guillemets, sur Gustave Courbet. Alors, Jean Larue, bah oui, qui c'est Jean Larue? C'est le surnom, le pseudo que se donne Jules Vallès, puisqu'il est en Angleterre. Et évidemment, il est interdit, donc, de pouvoir éditer. Alors, il passe par Hector Malot, hein, pour passer, entre autres, hein, donc, pour pouvoir passer ses écrits, puis surtout vivre de ses écrits. Hein. Donc, il signe Jean Larue, notamment. Élection municipale. Première candidature aux ouvrières aux élections municipales à Paris, 1878. Le 10 janvier, rapport de police sur Arthur Arnoux. C'est lui qui a prononcé le meilleur discours sur la tombe de Courbet, de la part d'un flic, Arthur Arnoux. Oui. 25 janvier, la Chambre des députés refuse d'adopter la Marseillaise comme hymne national. Le 28 janvier, deuxième congrès ouvrier de France à Lyon. Chabert, ouvrier graveur, y expose les thèses collectivistes. Alors, face au mur des fédérés, il y a une petite tombe hein, où il y a marqué Chabert, ouvrier Chabert. Eh bien, c'est lui, l'ouvrier Chabert. 30 mars, Charles Bellay meurt à Neuchâtel, 83 ans. Alors, ce bon monsieur Bellay, qui a été couvert de beaucoup de maux, c'est lui qui aurait protégé donc la Banque de France, mais c'est pas si simple que cela. 11 avril, François Pilon, dans la Revue philosophique de Littré, écrit « La République parlementaire a vaincu en 1877 le pouvoir personnel du président. Il faut qu'elle dompte en 1878 la résistance de l'administration. Elle ne saurait s'accommoder de grands et de petits fonctionnaires inamovibles et indépendants, des ministres responsables. » 31 directeurs de cabinet sur 54. L'administration, donc... Sont suspendus. 12 avril, amnistie pour les délits de caractère politique pour la période du 16 mai. Donc de l'année d'avant. Et oui, parce qu'il y a eu des discours, hein, c'est Gambetta du reste, hein, il faut qu'il se soumette ou qu'il se démette, plainte de MacMahon, hein, président de la République, hein, il n'acceptait pas. 1er mai, ouverture de l'exposition universelle au palais du Trocadéro et du Champ de Mars. Elle fermera le 31 octobre, donc 1878. Le 4 juin, gloire au pays où l'on parle, honte au pays où l'on se tait. Qui c'est qui écrit ça? Georges Clemenceau. Oui, premier flic de France et fusilleur des grévistes de Draveil. Ça sera plus tard. 19 juin 1878, début de la révolte Kanak à 25 km de Boulapari, en Nouvelle-Calédonie, par le massacre de ce chêne qui est un déporté de la commune libérée, donc, et qui travaille pour un colon. Donc, il est massacré, donc, avec sa femme et leur enfant. Les gendarmes de la FOA arrêtent les chefs des tribus voisines, et là, les Kanaks font pas de détails, ils massacrent tous les gendarmes pour délivrer, donc, les chefs des tribus. Louise Michel et Jean Alman vont être pratiquement les seuls à prendre le parti des Kanaks. Et on se rend compte de quelle façon, mais c'est très complexe, hein, puisque les Kanaks, donc mélanésiens, on ne sait pas trop, hein, c'est pour pas dire Kanak qu'on dit mélanésien. Donc les autochtones donc ne font pas beaucoup de différence entre les déportés donc prisonniers hein, pratiquement hein, privés de leur liberté et les colons qui viennent leur piquer leur terre hein, puisque c'est pas autre chose hein. Ils font pas vraiment la différence hein. Du côté des colons évidemment là il y a aucun problème hein, c'est moins il restera d'autochtones mieux ça vaudra. Et du côté des déportés, l'habileté donc de l'administration pénitentiaire, ça a été de se servir ou de faire croire qu'elle se servait donc des Mélanésiens, des Kanaks, des autochtones pour garder donc les déportés. et l'administration pénitentiaire ne se privera pas pour rapporter donc des faits d'anthropophagie sur des déportés qui ont tenté de s'évader, hein. C'est pas simple du tout, hein, ce qui s'est passé. Enfin, toujours est-il que c'est Louise Michel, hein, qui montrera l'exemple et sera absolument contre toute répression envers les autochtones. Et alors, le 27 juillet, Cavaret, fédéré, déporté en Nouvelle-Calédonie, va écrire, donc, pour ramener la paix en Nouvelle-Calédonie, il est nécessaire que la plus grande partie de ce peuple disparaisse. Voilà. C'est l'ambiance générale, hein. Et alors, voilà ce qu'écrit Louise Michel. L'insurrection kanak fut noyée dans le sang. Les tribus rebelles décimées. Elles sont en train de s'éteindre sans que la colonie en soit plus prospère. Ça, c'est pris dans La Commune, donc publié, bien sûr, en 1896. Louise Michel va aussi évoquer donc les Algériens déportés en Nouvelle-Calédonie suite aux révoltes de Kabylie, donc de 1870-1871. Donc on peut considérer que ça ressemble à des mouvements communalistes, hein. Pour Louise Michel, ils sont considérés par tous comme des humains de seconde zone. Voilà ce qu'elle écrit. Ils étaient simples et bons, et d'une grande justice. Aussi ne comprenaient-ils rien à la façon dont on avait agi envers eux. Puis elle continue. Vers la fin de février, les Arabes, qui connaissaient le despotisme militaire, donc en Algérie, mais qui ignoraient ce que serait le despotisme civil, et préféraient le mal connu au mal inconnu, commencent à se plaindre plus fort qu'on envoyait jusque dans leur famille des Français pour lesquels ils sont toujours des vaincus. Ils réclamaient leurs compatriotes dans les bureaux et craignaient encore plus l'administration civile pour s'immiscer chez eux. La révolte, qui chez les peuples asservis couve toujours sous la cendre, se propagea rapidement. Le vieux cheikh Haddad, sorti de la cellule où il s'était muré depuis plus de 30 ans, que son pays souffrait de la servitude, et commença à prêcher la guerre sainte. Ses deux fils, Mohamed et Ben Aziz El-Mokrani, Ben Ali Shérif et d'autres, soulevèrent les Kabyles. Donc ça, c'est 1870. Ils eurent bientôt une petite armée. Et vers le 14 mars 1871, le Bachaga de la Medjana envoya chevalesquement une déclaration de guerre au gouverneur de l'Algérie. Pendant 8 jours, les Arabes assiégèrent Bordidbou à Redji. Mais les colonnes Bonvalet, composées de plusieurs milliers d'hommes, les enveloppèrent. L'un des cheikhs, alors, descendit son cheval et gravit lentement la hauteur d'un ravin que balayait la mitraille. Il reçut, dit encore Jules Favre, la mort qu'il cherchait, orgueilleux et fier, comme il eût fait du triomphe. Voilà, donc c'est Louise Michel qui le rapporte. Et alors, elle continue, ainsi, en mai 1871, devait faire Charles de Lécluse. Donc on se rend compte que pratiquement, Louise Michel fait donc une comparaison pratiquement à 2 mois d'écart, hein, ce qui s'est passé. Et elle continue. On dirait qu'en écrivant cela, Jules Favre se souvenait du temps où, entouré de la jeunesse des écoles, il était avec nous d'une bonté paternelle et où nous l'aimions comme nous aimions la révolte pour la République et pour la liberté. Oh, la res publica que nous rêvions alors, qu'elle était grande et belle. Et ça, Louise Michel donc l'écrit dans La Commune. Donc toujours 1896, on sait que, bah oui, Jules Favre, en 1860-65, était donc dans cette association donc pour l'instruction élémentaire, hein, surtout son épouse du reste, hein, et donc c'est là qu'ils se rencontraient. Et alors on peut continuer donc ce qu'écrit Louise Michel. Un matin, dans les premiers temps de la déportation, là évidemment c'est en Nouvelle-Calédonie, nous vîmes arriver dans leur grand burnous blanc des Arabes déportés pour s'être eux aussi soulevés contre l'oppression. Ces Orientaux, emprisonnés loin de leurs tentes et de leurs troupeaux, étaient simples et bons et d'une grande justice. Aussi ne comprenaient-ils rien à la façon dont on avait agi envers eux. Boer, tout en ne partageant pas mon affection pour les Kanaks, la partageait pour les Arabes, et je crois que tous nous les reverrions avec grand plaisir. Ils avaient gardé une affection enthousiaste pour Rochefort. Hélas, il en est qui sont toujours en Calédonie et n'en sortiront probablement jamais. L'un des rares qui sont revenus, Elmo Crani, étant venu à l'enterrement de Victor Hugo, vint à Saint-Lazare, où j'étais alors, étant prisonné à Saint-Lazare, et croyait pouvoir me parler. Mais ne s'étant pas muni d'une permission, cela fut impossible. Donc on voit là, Elmo Crani vient pour l'enterrement de, se débrouille, est à l'enterrement de Victor Hugo, donc à Paris, et en même temps, il essaye de rencontrer Louise Michel à la prison de Saint-Lazare. Mais bon, il ne pourra pas la rencontrer. Pendant les dernières années de la déportation, ceux dont les familles étaient restées en France et à qui la séparation semblait longue, ceux surtout qui avaient des petits-enfants, recevaient des lettres où on leur parlait d'une amnistie prochaine. Le temps se passait sans que l'amnistie arrivât. Les malheureux qui y avaient cru sur la foi d'amis imprudents mouraient promptement, nombreux, et souvent on s'en allait en longue file par les chemins de la montagne vers le cimetière qui s'emplissait largement. Et ça donc, ça s'est pris dans la commune. Et alors dans ses mémoires, les mémoires, hein, donc là c'est plutôt, c'est bien avant, hein, puisque c'est 1886, hein, les mémoires, qu'on en finisse avec la supériorité qui ne se manifeste que par la destruction. Voilà. Eh bien, peut-être sur les liens donc que certains récupèrent, hein, puisqu'on voit que Elmo Crani est arrivé donc à Paris pour l'enterrement de Victor Hugo. Il essaye de rencontrer Louise Michel à la prison Saint-Lazare. Donc voilà, un texte qui passe, qui est sur Internet, qui est signé Paco. Insulte à la mémoire de Louise Michel. Et oui, parce qu'il y a un prix, Louise Michel. C'est honteux. Surtout de la façon dont il est distribué. Peu habitué aux potins mondains et autres infos, je découvre avec quelques jours de retard une information qui va couper la chic aux amis de la Commune de Paris. Il en reste. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a reçu le 28 septembre, donc 2005, 5 ans, le 28 septembre 2005 à Alger, le prix Louise Michel qui lui a été remis par le Centre des études politiques et de société de Paris, CEPSP. Alors vous allez sur Internet, vous cherchez donc ce truc, vous avez du mal à le trouver, vous ne le trouvez pas. Le CEPSP, il y a une foultitude de trucs comme ça, mais ce n'est pas du tout celui-là. Je continue la lecture de Paco, sans commentaire, pas tout à fait. Petit rappel pour ceux qui ont raté les épisodes précédents. Alors que la frégate Virginia, emmenait des communards, c'est lui qui le dit, hein, moi je dis les fédérés, vaincus vers le bagne de Nouvelle-Calédonie, la déportée Louise Michel écrivait « Je suis anarchiste, parce que l'anarchie seule fera le bonheur de l'humanité et parce que l'idée la plus haute qui puisse être saisie par l'intelligence humaine est l'anarchie, en attendant qu'un summum soit à l'horizon. » Institutrice républicaine, poète, porte-parole des opprimés, combattante sur les barricades parisiennes, infirmière, anticolonialiste avant l'heure, conférencière réputée, cofondatrice du Libertaire avec Sébastien Faure. Louise Michel a eu une vie exemplaire. Chantée par Victor Hugo et Verlaine, elle reçut un accueil populaire triomphal à son retour de déportation. Et oui, on chanta le bonhomme, hein, bonhomme, bonhomme. Cette femme qui a fait d'un vieux jupon le drapeau noir des anarchistes a été guidée par un idéal révolutionnaire profond, sans oublier son humanisme à toute épreuve. En janvier 1888, au Havre, elle fut victime d'un attentat pendant un meeting. C'est elle-même qui ira défendre son agresseur devant la cour d'assises. Et elle obtiendra sa grâce. C'est dire si celle pour qui tout pouvoir est maudit se situe aux antipodes d'un Bouteflika. Le prix Louise Michel est attribué tous les ans à une personnalité de haut rang, remarquée pour ses vertus de dialogue, de démocratie, de développement et de paix. Voilà, c'est le titre, donc, c'est les conditions d'attribution donc, de ce prix Louise Michel. Hein, une personnalité de haut rang, remarquée pour ses vertus de dialogue, de démocratie, de développement et de paix. Paco continue, pas moins. Il faudrait aller demander à Mohamed Benichou, auteur de Bouteflika, une imposture, donc c'est le titre du bouquin, directeur du quotidien Le Matin, qui croupit en tôle depuis le 14 juin 2004, ce qu'il pense des vertus du président algérien. Il faudrait aussi demander l'avis des autres journalistes algériens menacés, des associations de familles de disparus. Mais quelle mouche a piqué les guignols du CEPSP ? Pourquoi baptiser leur prix en TOC
du beau nom de Louise Michel pour honorer ceux qui incarnent l'exact opposé de ce qu'elle représente. Depuis 1982, date de la création du prix, des oiseaux comme Hosni Moubarak, Felipe González et Jacques Chirac ont gagné la timbale. En recevant son prix, Abdelaziz Bouteflika a osé saluer la poétesse rebelle. De quoi dégueuler, vraiment. Et c'est signé donc Paco, un texte qu'il a écrit, donc publié, donc on le retrouve sur Internet, hein, sous le MAG, hein, le MAG Internet, 14 octobre 2005. Alors, sur ces différents prix, oui, ben on peut prendre par exemple Jean-Luc Mélenchon, dans son discours fondateur du Parti de gauche. Mélenchon était battait le pavé hier samedi. Donc, Parti de gauche, fondé, PDG, hein, Parti de gauche, ça veut-tu dire PDG, du 29 novembre 2008, se réclame de Louise Michel, et voilà ce qu'il dit, « Nous plaçons le parti de gauche sous l'auspice tutélaire des deux visages qui dorénavant nous accompagneront, Jean Jaurès et Louise Michel. » On peut aussi rappeler que la promotion 1984 de l'ENA, École Nationale d'Administration, donc qui est dans la ligne d'Uriage, hein, avec le planisme, hein, porte le nom Louise Michel, la promotion 1984. Alors, ce 18 décembre 1995, discours de Chirac, hein, par exemple, le prix Louise Michel, que j'ai moi-même eu, vous l'avez rappelé, le privilège de le recevoir en 1986, distingue une personnalité politique qui a notamment marqué l'année. Ce prix aura ainsi récompensé au long de son histoire de nombreuses hautes personnalités, tant françaises qu'européennes ou africaines. Il va cette année à notre président, notre ami le président Rafik Hariri, président du Conseil du ministre du Liban. C'est vous dire que j'éprouve un plaisir tout particulier à ce que cette cérémonie se déroule ici, au palais de l'Élysée. Mais il me semble que Jacques Chirac doit habiter à l'heure actuelle dans une propriété qui appartient à quelqu'un qui doit être un petit peu du côté du Liban. Enfin, voilà. Simone Veil, en 83, remonte le prix de Louise Michel. Il y a Abdoulaye Wade, président du Sénégal. En 2008, donc c'est Navin Rangoumlan de l'île Maurice. Voilà. Léopold Sédar Senghor, en 86. En janvier 2005, c'est le président Marc Ravalomanana qui a reçu donc le prix Louise Michel pour son action dans la défense et la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et de la paix. Quand on sait que Madagascar, pratiquement l'esclavage existe encore, c'est assez intéressant. Pauvre Louise Michel, mais bon, c'est vrai qu'ils ont même réussi à la déplacer au cimetière de Levallois, puisqu'elle était à côté de la sépulture de Théophile Ferré. Ils ont réussi à la déplacer de quoi, d'une cinquantaine de mètres, pour la mettre au rond-point de la victoire. Donc ce qui veut dire qu'à chaque commémoration sanglante, hein, de mort pour, ils disent pour, mais c'est mort de la France, hein, elle a donc droit ou sa sépulture à les échos donc des concerts de tambours, de trompettes et de discours de militaires qui viennent vanter donc ceux qui ont été tués donc de la France. Voilà, de cette idée. Eh bien, je vais terminer donc pour aujourd'hui cette évocation des partageux de la commune, bien sûr, avec comme fil conducteur Louise Michel, avant de laisser les micros et le studio Jean, donc de choc, avec les nuits secrètes de Paris. Voilà. Eh bien, on va écouter donc. Tiens, qu'est-ce qu'on va écouter le temps des cerises. Allez. Le temps des cerises. Toujours, elle est chantée là par Marco Jray, le temps des cerises.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre signol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur.
mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux roses pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.